Chapitre 5. Tandis qu'Olive prenait l'omnibus qui devait la conduire à un pensionnat de Maidenvale, où elle passait toutes ses matinées, Claude, plongé dans une profonde méditation, se dirigeait lentement vers le bazar cosmopolite. Il repassait dans sa mémoire tous les noms des éditeurs de musique qu'il avait découverts en feuilletant un indicateur de Londres. Auquel s'adresserait-il en premier lieu ? Son ami l'organiste avait coutume de dire que dans toute entreprise, il faut s'attendre à 7 déconvenues. La 8e tentative est généralement celle qui réussit. Claude se croyait prêt à braver 7 fois 7 mécomptes s'il le fallait. D'une heure à deux, il était libre. Le bazar se vidait alors et chacun courait à son lunch. Ayant à la hâte pris son repas dans un restaurant voisin, Claude résolut de faire 2 éditeurs pendant le peu de temps qui lui restait. Il se dirigea vers une des rues latérales à Oxford Street, qui s'ouvrait dans un petit square silencieux et d'apparence très respectable, orné au centre d'une statue de bronze et entouré de hautes maisons grises qui étaient des bureaux de banque, de compagnies d'assurance ou d'associations philanthropiques. À l'angle du trottoir, Claude s'arrêta brusquement. Une émotion subite, moitié d'espoir, moitié de crainte, le serrait à la gorge. Il monta un petit perron, dont les marches étaient blanchies à la craie. Il entra dans un couloir, mit la main sur le bouton d'une grande porte vitrée et avala avec effort quelque chose de gros et de lourd comme un morceau de plomb qui semblait être arrêté dans son gosier. Il entra. Un petit homme chauve et en lunettes était assis derrière un grand pupitre d'acajou. 2 commis ouvraient des ballots pleins de feuilles de musique et en répartissaient le contenu dans divers portefeuilles. Un beau feu de coque rouge et savamment construit brûlait dans une vaste cheminée de marbre noir, jetant au plafond ses reflets mobiles et faisant miroiter les fauteuils et le comptoir. « Monsieur Gutmann ?» demanda Claude en s'adressant à l'un des commis. « C'est moi !» dit le petit homme chauve qui le regarda avec bonhomie par-dessus ses lunettes. « Prenez un siège !» Il avait un accent germanique très marqué, une certaine rondeur de contour et de gestes qui contrastait avec l'anguleuse raideur de ses 2 commis. « Que pouvons-nous faire pour votre service, monsieur » fit-il avec un sourire presque paternel en se tournant vers Claude. « Je désire savoir, » répondit le jeune homme d'une voix si différente de sa voix ordinaire, qu'il fut lui-même surpris de s'entendre, « je désirerais savoir si vous consentiriez à publier une petite composition. » Il s'arrêta, il avait la bouche et totalement sèche. « Une petite composition, » répéta M. Gutmann d'un ton encourageant. « De vous ?»« Oui, de moi. » »« Vous êtes amateur ?» Non, j'ai étudié la musique pour en vivre. Monsieur Gutmann fit entendre une petite exclamation doucement modulée. Ces jeunes gens ne doutent de rien, fit-il à demi-voix, avec un sourire plein d'aménité. Belle chose que la jeunesse. Vous donnez des leçons, sans doute. Claude Forest détestait les questions autant que les Allemands aiment à en faire. En face d'un point interrogatif, il se mettait immédiatement sur la défensive. « Il me semble que nous nous écartons du sujet, » dit-il. « Du sujet ? Ah oui, certainement, votre petite composition. Vocale ou instrumentale ? C'est une bagatelle pour piano. »« Bagatelle ?» fit M. Gutmann en se frottant le menton d'un air d'excessif regret. « Quel dommage! Les gavottes sont à la mode cet hiver, on ne veut que des gavottes, on s'arrache les gavottes. Tenez, Rococo Gavotte, par exemple, a fait fureur. Pour ma part, je n'en donnerai pas une coquille de noisette. Je la qualifierai d'un seul mot, c'est de la musique anglaise. » Et M. Gutmann sourit le plus agréablement du monde en faisant à Claude un amical signe de tête. Le jeune homme se leva. « Vous avez peut-être... » « Oh, pas du tout, pas du tout !» interrompit le souriant éditeur avec vivacité. « Pas le moins du monde, je vous assure. Vous voulez dire que j'ai des préjugés ? Au contraire, mes idées sont très larges, nous avons tous les idées très larges, nous autres Allemands. Mais la musique anglaise, votre petite composition, est-elle en majeur ou en mineur ? Le motif est en majeur. Vraiment, quel dommage que ce ne soit pas une gavotte. Vous pourriez vous adresser à Simpson, dont la spécialité est d'encourager les jeunes talents. Ce n'est pas la vôtre, monsieur, dit Claude qui ne put s'empêcher de sourire. Je ne les décourage pas, je leur donne l'adresse de mes confrères. Mais pour moi, je ne publie jamais de musique anglaise par principe. Si je l'avais su plus tôt, dit Claude en se retirant, je vous aurais fait perdre moins de temps. Comment donc? J'aurais été charmé de pouvoir. Mais la musique anglaise, voyez-vous. Claude s'inclina et sortit. Eden, fit-il en tirant sa montre. Après la conversation en guirlandais de cet aimable germain, j'aurais eu plaisir à rencontrer un honnête John Bull d'éditeur qui me prit au collet pour me mettre sommairement à la porte. Mais comme M. Gutmann avait été long à tresser ses guirlandes, Claude n'avait plus le temps de voir ailleurs. Il revint donc au bazar, se répétant avec beaucoup d'énergie qu'il n'était pas désappointé le moins du monde et qu'il ferait le jour même une seconde tentative. Quels édifices charmants son esprit bâtissait sur cette base fragile! C'étaient de petits cottages avec un jardin où Olive était assise sous un pommier fleuri, ou bien une petite maison dans un quartier tranquille, avec des rideaux de mousseline à toutes les fenêtres et un joli salon bleu, puisqu'Olive était blonde. Et pourquoi non? Ses espérances étaient-elles si ambitieuses? Demandait-il à la fortune des faveurs exorbitantes? Il était prêt à les payer de son travail le plus persévérant. Qu'il pût offrir seulement à Olive un home modeste, et tous deux attendraient sans impatience que la richesse entrât chez eux. Agité d'une fièvre de projet, tournant et retournant dans sa tête mille possibilités, Claude trouva la fin du jour bien lente à venir. L'air lui semblait plus épais qu'à l'ordinaire, les acheteurs plus bruyants, la marchande d'écran, sa jolie voisine, plus désagréablement sentimentale, avec ses attitudes penchées et ses sourires rêveurs. Enfin, 5h30 sonnèrent et Claude chercha dans son calepin l'adresse de M. Simpson. Ce mécène des jeunes talents avait ses bureaux à une grande demi-lieue d'Oxford Street, dans la direction du Strand. Claude prit un hansom pour y arriver plus vite. C'était un luxe qu'il s'accordait rarement, mais aujourd'hui, il escomptait ses espérances. Il trouva M. Simpson dans son bureau particulier, les pieds sur les chenets, en tête à tête avec un gentleman d'apparence méridionale. Claude exposa l'objet de sa visite et se hasarda à ajouter que M. Simpson passait pour donner volontiers un coup de main aux débutants. M. Simpson, qui était un homme d'une cinquantaine d'années, maigre, correct, avec un air de grave réserve dans toute sa personne, sourit légèrement en passant la main sur son menton. « C'est Gutmann qui vous a dit cela, sans doute. Il trouve commode de me faire cette réputation. » Du reste, je ne demande pas mieux que de la mériter. Asseyez-vous. » Claude prit un siège et M. Simpson continua. « Je suis systématique. Je règle toujours ce genre d'affaires par deux questions. Ne les croyez pas indiscrètes, elles sont simplement nécessaires. Primo, avez-vous de l'argent ?»« Non, » répondit Claude avec un léger haussement d'épaule. « Veuillez m'excuser si j'insiste. Ce n'est pas d'une fortune qu'il s'agit. Avez-vous 100 livres à votre disposition ? 60 au besoin suffirait. » Claude secoua la tête tandis qu'une légère rougeur montait à ses joues. « Quelle est l'autre question ? » demanda-t-il assez brusquement. « Avez-vous des amis dans le monde musical ? Non. » Il y eut un moment de silence. « Je n'ai aucune garantie quelconque à vous offrir, » dit Claude. « Il me semble que j'ai du talent, voilà tout. »« Je n'en doute pas, mais le succès, voyez-vous, n'accourt pas au premier signe que lui fait le talent. Il faut autre chose, de l'argent ou des amis bien placés. Procurez-vous l'un des deux seulement et je suis tout prêt à devenir votre éditeur. » « C'est-à-dire, » fit Claude avec un peu d'ironie, « que si je n'avais pas besoin de vous, vous seriez tout disposé à m'aider. » « C'est la loi commune, jeune homme. À celui qui a, il sera donné encore davantage. Les débuts sont toujours difficiles. On a son talent, qu'on croit un levier suffisant pour soulever le monde, mais on manque de point d'appui. Le point d'appui, c'est la grande chose. » Ces considérations, fort justes sans doute, étaient peu consolantes pour Claude. « Il me semble, dit-il vivement, que les éditeurs devraient être ce point d'appui. » « J'ai 25 ans d'expérience, répondit M. Simpson, de son ton froid et sentencieux. J'ai vu bien des fruits secs. Ma confiance dans les jeunes talents a des bornes. Quand ils me font l'honneur de s'adresser à moi, je leur dis « Je vous éditerai à vos frais, ou si vous appartenez à une coterie disposée à vous lancer, je vous tirerai à 200 exemplaires souscrits d'avance. » C'est ma réponse invariable. Claude n'avait plus qu'à prendre congé. Cependant, un reste d'espérance le retenait encore. « Dans vos 25 ans d'expérience, dit-il, n'avez-vous jamais vu de réputation se faire sans argent et sans cabale ? » ?»« Une ou deux fois, des débuts éclatants, originaux, prenant le public par surprise. Mais pour l'éditeur, c'était fort hasardeux. » Claude se leva. En se dirigeant vers la porte, il aperçut au fond de la pièce un grand piano ouvert. Une idée lui vint. « Qui sait ? » dit-il en s'efforçant de sourire. « Si je ne suis pas destiné à l'un de ces débuts éclatants. Ma composition ne manque pas d'originalité. Donnez-moi 10 minutes pour vous la faire entendre, je me soumettrai ensuite à votre verdict. » M. Simpson hésita et, se levant, vint à Claude avec un geste un peu embarrassé. « Le moment est mal choisi, » dit-il. Il désignait de la main l'étranger assis près de la cheminée. « Je vous en prie, je vous en prie !» s'écria celui-ci avec une intonation sonore. « Mon affaire, elle n'a aucune importance, pas la plus petite. Que ce jeune artiste produise sa petite composition, je serai heureux, je serai ravi. » M. Simpson toussa derrière sa main. « J'attends votre permission, » dit Claude en s'approchant du piano. « Pardonnez mon insistance, je ne puis m'empêcher de croire qu'il me reste encore une chance. » « Fort bien, » répondit l'éditeur, « comme il vous plaira. » Il s'enfonça dans son fauteuil, croisa les jambes et reprit son air d'impénétrable réserve. Claude, en s'asseyant au piano, dut s'avouer à lui-même qu'il tremblait, malgré le plus vigoureux effort d'imagination, pour se figurer qu'il était seul dans cette chambre, avec des chaises pour tout auditoire. Ses mains étaient froides et moites, et il sentit qu'il jouerait mal. Il joua mal, en effet. Son doigté fut encore plus décousu qu'à l'ordinaire, la grâce délicate de sa composition s'en ressentit. Il quitta le piano avec la désolante conviction d'avoir massacré sa musique de ses propres mains. M. Simpson se leva froidement. « Original, dit-il, un peu bizarre, un peu saccadé. Je doute que cela prenne, c'est le genre énervé dont on ne veut plus. » « Monsieur, s'écria Claude au désespoir, la faute en est à mon jeu exécrable. Je n'ai pas rendu justice à ma composition. » M. Simpson aurait pu sourire à cette exclamation candide, mais il eut la courtoisie de s'en abstenir. « Le motif, il n'est pas mauvais, dit l'étranger qui avait écouté avec la plus grande attention. Mais je crois que la mise en œuvre, qu'elle manque de vivacité. » « La musique anglaise, elle manque toujours de vivacité. Et puis, il faudrait de ces traits, brrr, vous savez, qui courent tout le long du piano, en avant, en arrière, brrr. Les mamans, elles aiment que leurs jeunes demoiselles, elles jouent des morceaux difficiles. Votre morceau, il est trop simple, beaucoup trop simple. C'est la musique du coin du feu, le grillon du foyer, très intime, très homelike, mais les grillons, ça ne prend plus. » Tenez-moi, je travaille aussi un petit motif qui n'est pas mal, quelque chose comme le vôtre, une légère ressemblance. Ballade sans parole, titre en français. Les mamans, elles aiment ça. Mais j'y mets des trilles, beaucoup de trilles, et puis des cascades, et puis de jolies petites fioritures. Ça gazouille, et ça danse, et ça sonne comme des grelots. Voilà mon genre. Les jeunes demoiselles, elles raffolent de mon genre. » Claude, impatienté, se tourna vers M. Simpson. « J'abuse de votre obligeance, dit-il. Il est possible que je me sois mépris sur le mérite de mon œuvre. » Il sortit en essayant de dissimuler son profond désappointement. Le refus de l'éditeur n'était rien, c'était de lui-même que Claude doutait maintenant. Imbécile que je suis, pensait-il, je me suis couvert de ridicule. Ma composition ne soutient pas la critique. C'est une élucubration mal fagotée, chaotante, où rien ne se tient, et j'en ai soigneusement fait valoir tous les défauts par mon exécution. Je sentais les yeux de ce diable d'Italien braqués sur moi tout le temps. Triple saut, avec ses traits et ses cascades. Mais si je ne suis bon à rien, et que mon prétendu talent de composition ne vaille pas mieux que mon doigté, me voilà dans une jolie situation.